RCF. La mort reste un profond mystère, que l'on soit croyant ou non. Que se passe-t-il vraiment lorsque nous mourons ? Y a-t-il une conscience, une âme qui survit après notre mort ? Que penser de ceux qui disent communiquer avec les défunts ? Stéphane Alix, depuis plus de 15 ans, vous consacrez votre vie à étudier, à enquêter sur la mort et ce que l'on appelle également les phénomènes paranormaux. L'ancien reporter de guerre que vous étiez a fondé l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, un lieu de rencontre entre témoins, scientifiques, médiums, psychologues. Vous venez de publier aux éditions HarperCollins un livre qui rencontre déjà un grand succès, un livre intitulé « La mort n'existe pas ». Alors avant de découvrir ce qui se cache derrière ce titre un peu provocateur, j'aimerais que l'on revienne dans le passé, dans votre passé. Quand vous étiez reporter de guerre en Afghanistan, il y a plus de 20 ans, vous étiez confronté sans cesse à la mort. Quel lien aviez-vous avec elle à cette époque ?
C'était un lien un peu ambigu, c'est-à-dire que j'ai voulu depuis très jeune, devenir reporter de guerre, photographe de guerre. Donc c'est ce qui m'a poussé à partir en Afghanistan, sans diplôme, sans école de journalisme, sans rien, pour rejoindre des Moudjahidines qui, à l'époque, luttaient contre l'invasion soviétique. Et effectivement, dans la décennie qui a suivi, j'étais confronté parfois à des situations difficiles. La mort était présente, la peur de ma propre mort, parce que quand on est sur une ligne de front, parfois on est pas loin du tout. Mais je me posais absolument aucune question d'ordre spirituel ou philosophique sur la question. C'est-à-dire que je rencontrais dans ces endroits peut-être une forme d'intensité de vie. Ça, c'est les mots que je mets a posteriori aujourd'hui. Hein. À l'époque, je ne sais pas trop pourquoi j'allais parfois m'exposer à des dangers difficiles. J'avais une sorte de passion.
Un goût de l'aventure, c'est ça qui vous habitait ?
Un goût de l'aventure, mais pas un goût de l'aventure égoïste, si tant est que l'aventure puisse être égoïste. Mmh. Un goût de l'aventure pour partager ce que j'allais découvrir. Mon premier voyage en Afghanistan, j'avais 19 ans, il a été vraiment marquant parce que sans avoir aucune préparation, c'est-à-dire sans savoir tout ce que je devais faire en tant que journaliste, je suis arrivé dans le maquis, j'ai passé des semaines et puis des mois avec des moudjahidines et je me suis rendu compte presque physiquement de combien j'étais imprégné d'une vision du monde particulière, celle de l'Occident, celle de la France dans laquelle j'étais né. Et je pénétrais dans une autre vision du monde. J'ai découvert pendant ce voyage-là l'altérité formidable qui compose cette planète.
Alors on va le voir, vous n'avez cessé de découvrir d'autres visions du monde. Vous allez nous en parler, mais je pense qu'il faut évoquer un événement qui a été à l'origine de toute votre quête ensuite sur le sens de la mort. C'est le 12 avril 2001. Un drame personnel qui va vous mettre en quête, on peut le dire à ce moment-là. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ?
Bien sûr, et effectivement, avant cette date-là, j'ai été confronté à la mort de façon parfois brutale, mais ça n'a jamais ouvert en moi de questionnement particulier. J'étais juste le témoin des colères et de la violence du monde. Mais ce jour-là, le 12 avril 2001, effectivement, dans un accident de voiture, je perds mon frère et trois personnes de mon équipe que je dirigeais à l'époque à Kaboul, en Afghanistan. J'étais dans la première voiture, donc j'ai assisté à l'accident. Et j'ai ramassé le corps de mon frère, j'ai ramassé le corps des autres personnes défuntes. Et ce moment a été un moment évidemment bouleversant, évidemment traumatisant, mais qui, d'une certaine manière, là encore, c'est le regard que je porte aujourd'hui avec le recul, qui a réveillé cette soif de sens qu'on a tous, normalement, et que j'avais dans l'adolescence, comme sans doute tous les adolescents, mais que j'avais enfoui en moi parce qu'il faut vivre, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut suivre, être dans la vie active. Donc j'avais remisé toutes ces grandes questions dans mon inconscient. Et voilà, et quand mon frère meurt, il a 30 ans, moi j'en ai 32. Et dans les semaines et les mois qui viennent, je peux pas revenir à une vie comme si il s'était rien passé. Je peux pas reprendre mon métier de journaliste, je peux pas...
Mais qu'est-ce que vous avez vraiment éprouvé dans ces moments-là pour mener une telle quête? Parce que depuis lors, vous ne cessez de réfléchir, enquêter, travailler sur la mort. quel a été le moteur, la dynamique qui vous a poussé à consacrer votre vie à ça à partir de cet accident?
Mais ça a été un enchaînement de choses en fait. Ça n'a pas été défini de façon aussi précise au début. C'est-à-dire qu'au début, je suis dans le choc de la perte d'un frère, dans le deuil.
Culpabilité aussi?
Non, pas tellement de culpabilité parce que mon père m'a fait un cadeau inestimable, il m'a fait le cadeau de la vie une deuxième fois, parce que quand j'ai ramené le corps de mon frère en France, on a amené le cercueil dans la maison de mes parents, en Seine-et-Marne, et vous parlez de culpabilité, mon premier souci c'était de voir dans les yeux de mes parents s'ils m'en voulaient, d'avoir emmené mon frère dans ce pays où il a trouvé la mort.
Oui, c'est vous qui l'aviez entraîné là-bas.
Et à peine entré dans la maison, je me dirige vers mon père, je le regarde dans les yeux et je lui dis « est-ce que tu m'en veux ?» Et il me regarde avec stupeur en me disant « mais comment est-ce que tu peux penser à un truc pareil ?» Et ça me sauve la vie. Ça me sauve la vie parce que j'ai vu qu'il y avait absolument aucun ressentiment, même pas un atome de ressentiment dans le regard de mes parents. Donc non, pas de culpabilité. Mais en revanche, voilà une grande question. Sauf que moi, j'ai pas passé de bac, j'ai pas été du tout très doué en philosophie. Pour moi, la question de la mort et d'un possible après relève exclusivement du religieux ou du philosophique. Donc j'ai pas d'outils ni même d'intuition sur comment, en tant que journaliste, je pourrais questionner ça. Ça n'est que 2 ans après. J'entends parler des expériences de mort imminente. Vous savez, ces gens qui, pendant un accident de voiture, un arrêt cardiaque ou autre, disent avoir observé la scène du dessus, avoir vu un tunnel, de la lumière, etc. Et je suis amené à un moment, en entendant un médecin en parler dans une émission de radio, à me dire, mais tiens, si mon frère Thomas, je l'avais pu le ranimer sur le lieu de l'accident, est-ce qu'il m'aurait raconté une histoire comme ça, une histoire curieuse? Est-ce qu'il m'aurait dit, je vous ai vu depuis le dessus? Et donc, mon entrée dans le questionnement journalistique et rationnel sur la question de la vie après la mort a commencé avec les expériences de mort imminente, en rencontrant des témoins, des chercheurs, et en commençant à découvrir que finalement cette expérience n'était pas une hallucination, n'était pas irréelle, n'était pas une sorte de reconstruction, elle était beaucoup plus mystérieuse que ça. Et ça a été le fil rouge que j'ai commencé à tirer. Et à partir du moment où j'ai tiré ce fil rouge, assez rapidement, en fait, je me suis aperçu que les certitudes dans lesquelles nous vivons dans notre monde, à savoir tout est matière, tout est explicable en termes de cause et d'effet, donc a priori la conscience naît de l'activité du cerveau, donc quand le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus de conscience. Tout ça n'est pas du tout démontré scientifiquement. C'est une hypothèse qui, pour des raisons sociales, culturelles et philosophiques, est devenue une certitude, une vérité d'évangile, j'ai envie de dire. L'effondrement de mes certitudes, au contact des scientifiques eux-mêmes, a été le moteur de ce qui m'anime encore aujourd'hui.
Visage. RCF.
Alors Stéphane Alix, vous insistez beaucoup sur le fait que vous êtes journaliste et que ça a été une enquête journalistique que vous avez menée depuis lors. Vous dites « j'ai décidé de regarder la mort dans les yeux ». Vous avez écrit ça un jour dans un de vos livres. Mais vous avez voulu la regarder, la comprendre, l'approcher en rencontrant des scientifiques, en rencontrant des témoins qui ont vécu des expériences de mort imminente. Cette dimension-là est importante, hein, je crois, pour comprendre votre démarche.
Ah, elle est primordiale pour moi. Elle est primordiale. C'est pas que je juge que d'autres chemins aient moins de valeur, mais moi, je suis journaliste et j'ai vraiment questionné la mort avec ce regard de journaliste. Par exemple, auparavant, j'ai déjà travaillé sur des sujets très sensibles. Les sujets très sensibles qui peuvent être l'objet d'une compréhension très partielle quand on est loin et qui deviennent beaucoup plus subtils quand on est près. Je pense au terrorisme, je pense à l'émergence du mouvement des talibans en Afghanistan, je pense à différentes questions sociales et politiques. Ça demande une expertise, mais c'est possible de travailler dessus. On peut trier le bon grain de livret, on peut trouver les bons témoins, croiser leurs informations, croiser leurs témoignages, etc. Et donc, c'est exactement cette même méthode que j'ai employée sur la question de la mort. Voilà, les expériences de mort imminente, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les médecins en disent? Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Les témoins, qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qui est objectivable dans ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qui n'est pas objectivable?
Et alors, Stéphane Alix, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que sont les expériences de mort imminente, même si on en parle de plus en plus, comment vous pourriez définir ce qu'est une EMI, comme on dit en français?
C'est une expérience d'intense conscience qui se produit à un moment où, a priori, le cerveau est en cessation d'activité ou en souffrance sévère.
Donc la personne est donnée comme morte cliniquement, son cœur ne bat plus.
Alors une grande majorité des expériences arrivent effectivement dans ces circonstances-là, où la personne, par exemple dans un accident de voiture, a un arrêt cardiaque. Normalement, elle devrait être inconsciente, mais les études montrent que depuis à peu près 50 ans, un peu plus de 50 ans, on a développé des techniques de réanimation qui permettent de ramener des gens qui sont en arrêt cardiaque ou en état de mort clinique. Et 20% d'entre eux, enfin suivant les études, c'est entre 12 et 20%, disent que à l'inverse d'avoir été complètement inconscient, comme normalement elles auraient dû l'être, elles étaient extrêmement conscientes, plus conscientes encore qu'elles ne le sont en état de veille. Alors ça, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire être plus conscient? Mais il décrit vraiment la sensation de se réveiller, la sensation de percevoir leur environnement, les choses avec beaucoup plus de netteté.
Des corporations, hein. Souvent, il y a des descriptions de personnes qui voient ce qui se passe au moment où on essaye de les réanimer, voire même ce qui se passe dans des pièces à côté.
Exactement. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé, parce qu'il y a toute une partie qui est de l'ordre de la transcendance, qui est vraiment une expérience psychospirituel d'une grande intensité, mais il y a aussi, dans beaucoup d'expériences de mort imminente, un moment d'otoscopie, c'est-à-dire un moment où la personne dit être à l'extérieur de son corps. Par exemple, sur le lieu d'un accident, la personne est à 5-6 mètres au-dessus et voit les secours, voit tout le monde s'affairer. Dans un bloc opératoire, la personne se réveille au plafond et voit le chirurgien et voit l'équipe soignante travailler.
Et puis, il y a ce fameux tunnel.
Il y a le tunnel, ensuite.
Part vers la lumière, et une lumière aimante.
Il y a une espèce de lumière aimante, effectivement, une lumière extrêmement incroyable, mais pas éblouissante, qui est remplie d'amour. Les témoins rapportent parfois aussi, parfois assez souvent, avoir rencontré des personnes décédées de leur famille, des personnes qu'ils n'ont jamais connues ou certaines qu'ils ont pu connaître, mais qui sont décédées et qui leur disent que c'est pas le moment, que pour eux, il faut qu'ils reviennent. Parfois, il y a des figures spirituelles qui sont observées aussi.
Différentes selon les religions des personnes.
Effectivement. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce que je peux vérifier? Quand un témoin dit avoir été hors de son corps et qu'il a observé la scène, ça, je peux vérifier. Qu'est-ce qu'il a décrit? Est-ce que ce qu'il a décrit est précis? Est-ce qu'il y a des choses qu'il n'aurait pas pu imaginer ou inventer? Si là, je vous demande, par exemple, de me décrire une scène d'opération, vous allez me décrire les grandes lignes de ce que vous avez vu dans les séries télévisées, etc. Mais vous n'allez pas décrire quelque chose qui s'est potentiellement produit alors que vous étiez en arrêt cardiaque et qui était complètement inattendu. Je ne sais pas, par exemple, je me souviens d'une témoin qui, pendant une expérience de mort imminente, a été au-dessus de son chirurgien et a vu ce qui se passait dans le bloc opératoire et a observé des séquences précises de l'opération qui n'étaient pas du tout prévues, qui n'étaient pas du tout imaginables. Elle a même décrit un instrument qui servait à ouvrir sa boîte crânienne. Et là, si je vous demande, moi, ou si je demande aux auditeurs de nous décrire avec quoi on ouvre une boîte crânienne, on va peut-être spontanément dessiner une scie ou un truc circulaire. Mmh. Et là, ça ressemble à une brosse à dents. J'ai jamais vu un instrument comme ça.
Et là,
elle l'a dessiné précisément.
Il y a des milliers et des milliers de témoignages aujourd'hui.
Oui.
Qui sont recueillis et travaillés par des scientifiques.
Alors, pas autant qu'on le voudrait, pas autant que, moi, c'est ça qui me stupéfait. Ce sujet est tellement fascinant que je suis estomaqué que pas plus de scientifiques ne s'intéressent à la question, mais il y en a quand même beaucoup. Et effectivement, il y a aujourd'hui à notre disposition des milliers, si ce n'est encore plus, de témoignages corroborés pour lesquels on dispose d'informations déjà du témoignage du témoin, mais aussi des corroborations de l'équipe soignante qui a été impliquée, par exemple. Et ils attestent que quand les gens sont sortis de leur corps, ils ont ramené des informations qu'ils n'auraient pas eu aucun moyen de pouvoir obtenir autrement. Donc il y a vraiment une perception possible pour 20% des gens en arrêt cardiaque qui ne s'explique absolument pas et qui est impossible parce que le cerveau ne fonctionne plus. Au bout de 10 à 20 secondes d'un arrêt cardiaque, le cerveau cesse totalement son activité. Alors les cellules ne meurent pas, elles sont en pause, elles ne vont mourir qu'au bout de 5-6 minutes s'il n'y a aucune tentative de réanimation. Mais la cellule, le neurone à ce moment-là, n'a plus d'oxygène, n'a plus de sang, n'a plus d'apport glucosé qui lui permet de fonctionner.
Mais alors justement, ça pose là la question de la conscience, utilisons ce mot-là. Qu'est-ce qui observe ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort du corps?
Voilà une des certitudes qui s'est effondrée, et peut-être une des certitudes les plus magistrales. On observe, avec notamment le développement exponentiel des neurosciences, on observe des corrélations entre activité neuronale et état de conscience. C'est-à-dire votre cerveau, là, il fonctionne d'une certaine manière, mais quand vous dormez, il fonctionnera d'une autre manière. Si vous êtes dans le coma, il fonctionne encore d'une autre manière. Donc on peut vraiment associer des états d'activité cérébrale à des états de conscience différents. Donc, dans une sorte de tour de passe-passe, on conclut qu'a priori, notre cerveau fabrique ces états de conscience. Sauf que cette corrélation, elle veut absolument pas dire que le cerveau les a fabriqués. Ça, c'est une supposition qui est devenue, encore une fois, une espèce de certitude pour tout le monde, mais qui est contestée par les neuroscientifiques eux-mêmes. Bon, c'est ça qui m'a estomaqué, de rencontrer des très grands neuroscientifiques dirigeant des services à travers le monde entier qui vous disent, en fait, on sait absolument pas si le cerveau fabrique la conscience. C'est une hypothèse de travail que l'on explore depuis effectivement des décennies, mais elle est absolument pas démontré, on n'en sait rien, et c'est même parfois très intriguant, parce que comment un organe biologique d'un kilo 4 pourrait produire une expérience intérieure, une expérience des sentiments, des émotions? C'est inexplicable en termes même philosophiques, et en termes scientifiques, ça n'est pas démontré.
Mais vous le dites dans votre livre, il y a des divergences considérables entre les scientifiques. Vous en citez trois que vous avez rencontrés, interviewés. Il y a Stephen Lawrence qui dit que finalement tout dépend du cerveau.
Non, lui, il suppose que tout dépend du cerveau.
Ah, mais c'est ce qu'il a, enfin, c'est ce qu'il affirme aujourd'hui.
Non, il le dit pas. Il l'affirme pas. Oui. Stephen est un neurologue belge de renom et justement
oui, sur le coma en particulier.
Il travaille sur le coma, les états limites de la conscience et il a cette humilité de dire a priori, moi je cherche dans le cerveau. Parce que c'est mon métier et a priori, je devrais trouver les sources de la conscience dans le cerveau, mais c'est une hypothèse de travail. Je n'en suis absolument pas certain.
Et puis, il y a d'autres personnes comme le docteur Van Lommel.
Pim Van Lommel, qui est cardiologue, qui est l'auteur de l'étude la plus importante sur les expériences de mort imminente, qui a été publiée dans The Lancet il y a quelques années de ça, et qui lui...
lui dit le cerveau est un filtre.
Voilà, si on doit résumer de façon extrêmement sommaire son hypothèse, c'est de dire ces expériences de mort imminente, elles sont réelles, elles sont incontestables, elles ne peuvent pas s'expliquer par une activité cérébrale parce que c'est impossible. Comment une personne qui est en arrêt cardiaque, donc le cerveau ne fonctionne plus, pourrait avoir une expérience produite par le cerveau? Donc Pim Van Lommel, de par ses études, en vient à l'idée que la conscience est indépendante du cerveau, que le cerveau joue un autre rôle dans l'interaction de la conscience, peut-être un rôle de filtrage, un rôle de transistor, un peu comme un ordinateur vous sert à capter des informations qui sont dans le cloud, des informations qui sont spécifiques à votre ordinateur, spécifiques à votre identité, sachant que le cloud, lui, contient l'ensemble des données de l'humanité, d'une certaine manière. Donc peut-être que la conscience, c'est ça. Peut-être que la conscience, et là, on rejoint des traditions spirituelles, on rejoint aussi...
Où on parle de l'âme, parce que là, on n'a pas utilisé ce mot jusqu'à maintenant, mais en fait, dans les traditions spirituelles, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'hindouisme, on parle de l'âme, et que l'âme quitte le corps au moment de la mort. On n'en parle plus beaucoup, et dans les domaines scientifiques, on n'en parle pas. On n'a jamais pu observer l'âme.
Non, mais en même temps, c'est ce qui ressort des études sur les expériences de mort imminente et d'autres études que je rassemble dans ce livre-là. C'est-à-dire que l'âme est une réalité. Elle est démontrée. La science, si vous voulez, c'est pas une communauté où tout le monde est d'accord. On l'a vu, notamment au moment de la crise sanitaire. Comment se fait-il que des scientifiques très brillants dans leur domaine aient des avis extrêmement divergents sur les mêmes faits? Bah, c'est la science. La science, c'est pas une affaire de preuves définitives. Les preuves définitives, elles appartiennent aux mathématiques. Dans le reste des disciplines scientifiques, comme les neurosciences, comme l'astrophysique ou la physique, on est dans une approche beaucoup plus subtile qui nous permet d'accumuler des éléments de preuves, evidence en anglais, qui vont renforcer une hypothèse ou au contraire la déconstruire. Et aujourd'hui, et c'est ce que je démontre dans le livre, vous avez une partie importante de la communauté scientifique qui vous dit non, on n'a pas assez d'éléments aujourd'hui pour attester que la conscience a une dimension spirituelle et que l'âme est une réalité. Mais vous en avez d'autres qui disent le contraire. Vous en avez plein qui sont extrêmement éminents, qui travaillent dans plein de domaines différents, qui vous disent si aujourd'hui les données accumulées sur les expériences imminentes et d'autres attestent que l'âme est une réalité et que l'homme a une dimension spirituelle.
Stéphane Alix, quand on donne la parole à des hommes et des femmes qui ont vécu, eux, cette expérience de mort imminente, comment ils l'expriment et surtout, qu'est-ce qui a changé en eux?
Bah, c'est ça qui est impressionnant aussi, c'est que cette expérience peut avoir duré dans la temporalité de notre réalité, quelques secondes, quelques minutes, parfois un peu plus, et les gens reviennent changés, radicalement changés. Il y a une espèce d'évidence expérientielle chez une grande majorité d'entre eux qui leur fait dire « oui, j'ai vu ce qui se passe au moment de la mort ».
Ils ont peur de la mort encore ou plus?
Non, beaucoup n'ont plus peur. Alors, c'est une expérience qui est compliqué à gérer. Il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement parce que l'expérience bouleverse toutes nos croyances. Mais il y a cette espèce de conviction intime qu'ils ont fait l'expérience de quelque chose, qu'ils ont fait l'expérience de leur dimension spirituelle et que du coup, bah, la mort, c'est ça. En fait, ils l'ont déjà vécu. Et c'est ce que je raconte parce que j'ai moi-même vécu ce type d'expérience. Et comment dirais-je? Vous savez, on est habitué dans notre monde à n'avoir comme source d'information que la science et la validation objective que permet la réplicabilité des expériences. Mais il y a d'autres outils qui nous permettent d'acquérir des connaissances. L'introspection spirituelle, le voyage chamanique et l'expérience directe d'un phénomène. Et les expérienceurs, ceux qui ont vécu cette expérience de mort imminente, pour beaucoup, ont vraiment une conviction qui n'est pas de l'ordre de la foi. C'est pas une sorte d'adhésion qui abolirait le discernement. C'est vraiment... Ok, je sais que j'y suis allé. Je sais que je suis allé de l'autre côté.
Et de l'ordre de l'expérience, mais une expérience qui est intraduisible quelque part. Parce que j'ai recueilli à ce micro quelques témoignages et j'ai lu beaucoup sur ces questions-là. Les personnes nous parlent d'une dimension tout autre. On est hors de l'espace-temps.
Oui.
Et nous, êtres humains, nous sommes tout le temps conditionnés par l'espace-temps.
Et c'est extrêmement difficile de verbaliser cette expérience. parce que elle nous emmène dans un monde de transcendance. Elle nous emmène dans une réalité spirituelle pour lequel nous n'avons d'une part pas d'expérience, et puis d'une part nous avons un cerveau qui a été lui développé et câblé pour interpréter, comprendre, analyser et mettre des mots sur notre expérience de veille quotidienne.
Ça veut dire que ce cerveau finalement nous limite
extrêmement. Notre cerveau, et c'est ce que je découvre et je le démontre dans le livre à travers différents cheminements, à la fois à travers les neurosciences et la psychologie cognitive, notre cerveau est une sorte de prison. Alors une prison extrêmement utile. C'est grâce au cerveau que nous sommes des êtres humains fonctionnels, que nous pouvons vivre, être adaptés et fonctionner dans ce monde.
Une prison ou un outil finalement.
Oui, le terme est peut-être un peu dur, prison. C'est un
outil, mais un qui outil n'explique adaptatif. Pas tout, alors qu'aujourd'hui on a tendance à tout expliquer par le cerveau.
Oui, on essaye, on suppose qu'on a toutes les... Mais vous savez, pour avoir côtoyé quand même beaucoup, beaucoup de scientifiques dans plein de domaines différents depuis 2 décennies, j'ai quand même rencontré, alors certes, beaucoup d'idées préconçues de blocage, mais aussi beaucoup, beaucoup de gens éminents ayant justement une très grande modestie, parce qu'extrêmement conscients de la limite des outils scientifiques qui sont à notre disposition aujourd'hui.
Stéphane Alix, que devenons-nous quand nous quittons notre corps, quand nous mourons ? Vos enquêtes vous ont amené vers quelle réflexion autour de cela, ou qu'avez-vous pu glaner comme information sur ce que nous devenons après la mort ?
Déjà, je me suis attaché à mettre en évidence le fait que nous continuons à vivre. Ça m'a demandé quand même beaucoup de temps pour rassembler des éléments qui permettent d'attester ça de façon objective.
Ça, le titre de votre livre, « La mort n'existe pas », ça veut dire que c'est un passage, mais nous continuons à vivre.
Oui, c'est un passage. C'est ce que disent toutes les traditions spirituelles de l'humanité, mais c'est aussi aujourd'hui ce que permet de mettre en évidence la science. Vraiment, mon livre est un livre d'enquête, à la fois d'expérience, mais un livre d'enquête. Donc la mort est un passage, la mort est une métamorphose, une mutation. Elle n'existe pas pour notre conscience, parce que notre conscience, notre âme, elle est vivante dans notre corps. Elle est immortelle, elle continue de vivre. Certains scientifiques la qualifient de non-locale, qui est un terme employé à la physique quantique pour désigner le caractère non assujetti au temps et à l'espace. Il y a une dimension fondamentale de notre conscience qui n'est pas bloquée dans le temps et dans l'espace, qui est éternelle, qui est immortelle, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et cette conscience, elle est là en ce moment même, au moment où nous parlons. En vous, en moi, en toutes les personnes qui nous écoutent, on a cette part spirituelle qui est complètement écrasée, inhibée et rendue invisible par l'activité de notre cerveau. Mais elle est là, elle existe. Alors, qu'est-ce qu'elle devient après la mort ? Ça, c'est une grande question.
Parce que les religions ne disent pas grand-chose, en tous les cas, les religions du livre, les religions monothéistes ne nous disent pas grand-chose, à part le paradis, l'enfer, le purgatoire pour les catholiques. On retrouve ces notions de paradis, d'enfer, dans le bouddhisme aussi, dans d'autres traditions comme l'hindouisme. Mais quid, vous, dans vos recherches, qu'est-ce que vous avez découvert sur où part cette conscience après la mort ?
Ce que je peux mettre en évidence, c'est ce sur quoi il y aurait une espèce de consensus entre les différentes traditions spirituelles et la science, c'est que la conscience continue, mais elle est d'une certaine manière débarrassée de l'emprise de notre cerveau et de ses dynamiques psychologiques. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui animés par notre conscient et notre inconscient. Et dans notre inconscient, il y a beaucoup de croyances, d'idées qui animent notre existence. On croit avoir le libre arbitre, on croit être décideur de nos actions, mais regardez combien de fois dans notre vie, nous sommes influencés par des dimensions qu'on ne connaît pas vraiment.
Conditionnés quelque part.
Pourquoi est-ce qu'on fait tel choix dans l'existence ? Pourquoi est-ce qu'on a peur de telle chose ? Pourquoi est-ce qu'on répète peut-être des schémas d'auto-sabotage ? Pourquoi est-ce que l'on va vers tel métier ? Pourquoi est-ce que l'on va vers tel conjoint ? Il y a des choix conscients, mais il y a aussi beaucoup d'inconscient qui anime tout ça. Et cet inconscient, il est animé par des dynamiques psychologiques qui sont nées avec notre cerveau et qui ont été développées au fur et à mesure de notre croissance en fonction de notre enfance, notre éducation, notre contexte culturel. Ces dynamiques, elles ne s'effacent pas comme par magie dans un claquement de doigts au moment de la mort. Elles continuent de nous imprégner avec beaucoup plus de distanciation, mais elles continuent de nous imprégner. Et ce qui se passe dans les premiers jours, les premières semaines de la mort, si tant est que le temps puisse être appliqué à cet espace-là, c'est une sorte de désidentification progressive à ces dynamiques. Je me souviens d'une médium. Les médiums sont ces gens qui prétendent communiquer avec l'au-delà et qui, dont on, j'ai pu attester à travers différentes expériences la réalité du phénomène.
On a fait tout un travail sur les médiums, on en parlera dans un instant.
Une médium me disait, quand un alcoolique meurt, il ne cherche pas la lumière, il cherche un bar. Parce que toute sa vie, il a été habitué à être dans cette dépendance totalement emprisonnante à l'alcool, et donc la mort ne va pas tout d'un coup, comme par un coup de baguette magique, le faire accéder à l'espace de son âme pure. Il est encore imprégné de ses peurs, de ses envies, de ses désirs, et notamment celui de boire, par exemple. Et donc, dans ce temps qui suit la mort, il y a une lente, progressive désaffection, désidentification avec notre identité et nos schémas psychologiques. Ça peut prendre... un temps, mais qui est hors du temps, c'est difficile de mettre des mots, mais au bout d'un certain processus, la désidentification se fait de plus en plus, et on se réimmerge dans ce monde de l'âme, dans cette réalité. Moi, j'ai été frappé par ce message de beaucoup de témoins d'expériences de mort imminente que j'ai rencontrés encore, qui me disent « j'avais l'impression de me réveiller ». Comme si toute ma vie, j'avais été dans une forme de voile, de confusion, et que là, je me réveillais. Je me réveillais. Et ce qui est drôle, c'est que ça rejoint notamment la philosophie platonicienne, par exemple, qui considère que notre vie est une vie voilée, confuse, et que la réalité, elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus inaccessible même.
Ça veut dire que nous sommes sur un chemin de transformation, d'évolution, et que cette vie-là n'est qu'un passage dans ce chemin ?
Oui. Oui. C'est vraiment ce qui ressort. Encore une fois, mon oui, il n'est pas... C'est pas un acte de foi. Il n'émerge pas d'une très très longue retraite dans un monastère. Il émerge de ma confrontation et de mon questionnement avec des scientifiques et aussi de mes expériences personnelles. Elles ont eu une part importante.
On va en parler.
Mais c'est d'abord la science qui permet de dire ça. La science permet aujourd'hui d'apporter beaucoup de poids à l'hypothèse que notre conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale et qu'elle est immortelle.
Alors Stéphane Analix, on a évoqué ces médiums, vous avez mené aussi toute une enquête depuis des années à travers notamment l'INRES, l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires que vous avez fondé. Donc vous avez fait, pareil, des enquêtes sur les médiums, sur les pouvoirs des médiums. Alors vous le savez, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont avoir des réticences, ils se méfient, la mi-vidule qui travaille sur les sectes et les dangers pointe les risques de médiums, charlatans et autres. Vous, vous dites, c'est pareil, il faut trier, mais il y a des pouvoirs médiumniques qu'ont certaines personnes. Alors, parlez-nous un instant de ces médiums avec lesquels vous avez enquêté, que vous avez rencontré, et en quoi ils peuvent nous aider à mieux comprendre la mort.
Bien sûr, mais je tiens juste à souligner qu'effectivement, cette méfiance que nous avons tous, et la prudence avec laquelle la Mivilude, justement, alerte sur les dérives sectaires, et absolument importante, parce que c'est une réalité.
Il y a des charlatans.
Il y a des charlatans, il y a des dérives sectaires.
Prudent.
Et il faut effectivement être extrêmement rigoureux. Et c'est le travail que j'ai fait. À partir du moment où les grandes certitudes que je pensais être établies se sont effondrées, je me suis interdit aucune question. En revanche, j'ai renforcé encore à la fois mon discernement et ma méthodologie de travail. Un médium, c'est quoi ? C'est une personne, un homme ou une femme qui prétend communiquer avec un défunt. Ok, on va le mettre dans des circonstances et dans un cadre et un contexte qui permet de prouver qu'il obtient des informations. Comment ? En le mettant dans une situation complètement en aveugle, en lui demandant d'aller communiquer avec tel ou tel défunt que l'on a désigné, et en voyant s'il peut obtenir de ce défunt des informations précises et détaillées.
Et il n'est pas censé connaître.
Et qu'il n'est évidemment pas censé connaître. On peut très facilement, si vous voulez, faire en sorte qu'il ne sache absolument rien du défunt en ne donnant par exemple qu'un prénom. Avec un prénom qu'on lui donne au moment où on fait l'expérience, on sait que le médium ne sera pas allé chercher sur Internet des informations, qu'il n'a aucun moyen de l'avoir. En faisant en sorte que cette expérience se fasse sans les personnes liées au défunt, ça interdit toute possibilité de lecture froide ou de lecture inconsciente. Le médium est tout seul, par exemple, quand il est testé. Donc, il a personne en face de lui dont il peut lire les réactions inconscientes sur le visage.
Et là encore, il y a des recherches scientifiques qui sont menées avec les médiums.
Oui, des chercheurs américains notamment ont travaillé là-dessus avec ce type de protocole extrêmement rigoureux qui permettent d'attester que des hommes, des femmes sont capables d'obtenir des informations très précises et très détaillées. Vous savez, la première fois que j'ai testé un médium, je lui ai amené la photo de mon frère, je lui ai posé dans les mains, il l'a regardé, allez, 2 secondes, on est dans une pièce un peu sombre, il l'a mis sur son front et là il est rentré dans le silence. Pendant 5 minutes. Il ne disait rien, je ne disais rien. Et au bout de 5 minutes, sa première phrase, ça, oh, j'ai un choc à la tête, j'entends comme un froissement de tôle de voiture, il est mort dans un accident. Ah, j'ai l'impression que c'est votre frère cet homme.
Et il ne savait rien,
il ne savait strictement rien.
Ni de votre frère, rien.
Alors, une fois, on peut dire, bon, c'est une coïncidence. Effectivement, je lui amène la photo d'un homme jeune qui peut éventuellement me ressembler un peu, donc il peut déduire que c'est mon frère. Maintenant, mon frère, il est mort d'un accident de voiture. Donc on peut se dire, bon, s'il est mort jeune, c'est plutôt un accident de voiture. Mais il aurait pu se suicider, il aurait pu mourir d'un cancer ou d'une autre maladie. Là, il tombe juste. Et dans la demi-heure qui va suivre, ce médium va systématiquement me donner des informations précises et détaillées sur le caractère de mon frère, sur l'accident, sur les circonstances de sa mort, sur sa vie, etc., etc.
Alors comment est-ce qu'on explique ce pouvoir des médiums?
Il y a 2 explications. Soit le médium lit, capte des informations de façon extrasensorielle, la télépathie ou la perception d'informations qui sont peut-être dans ma tête ou qui sont peut-être ailleurs, dans une espèce de champ informationnel. Soit il communique vraiment avec un défunt. Voilà, c'est les seules 2 explications rationnelles qui permettent de rendre compte des expériences de médium telles qu'elles ont été faites. Ça ne veut pas dire que toute personne qui se prétend médium l'est, attention. Et ça ne veut pas dire non plus que même avec un bon médium, pendant une séance qui va durer 30 ou 40 minutes, le médium communique en permanence avec le défunt. Il faut toujours être extrêmement vigilant. La médiumnité, c'est vraiment une perception extrêmement subtile qui se mélange inconsciemment avec l'inconscient du médium.
Et alors, à votre avis, Stéphane Alix, pourquoi les religions monothéistes, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam, interdisent ce contact avec les morts? Je suis allé rechercher dans le Deutéronome, au chapitre 18, versets 10 à 12, il est écrit « On ne trouvera chez toi personne qui interroge les spectres et devins qui invoquent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. » Traduction de la Bible de Jérusalem. Pourquoi ces 3 religions? Parce que les 3 déconseillent complètement d'essayer d'entrer en relation avec les morts.
Bah, il faudrait le demander, je suis pas théologien, mais vous trouvez la même chose dans le livre des morts tibétains, par exemple, qui préconise vraiment d'être extrêmement, brutal avec le défunt. Le livre des morts tibétains, c'est un livre qui doit être lu devant le défunt pour l'aider à cheminer après la mort.
On appelle le bardo todol.
Le bardo todol. Et le bardo préconise vraiment d'insulter le défunt, de brûler ses affaires, de détruire son environnement pour lui dire « t'as plus rien à faire là, tu t'en vas ».
Ne reste pas ici quoi, va-t'en.
Moi, la seule réponse que je peux vous faire, c'est une réponse plus de psychothérapeute. Que j'ai vu chez les médiums et que j'ai vu aussi chez de nombreux psys qui n'interdisent pas ou ne préconisent pas forcément la consultation d'un médium, mais qui voient combien parfois la consultation d'un médium peut entretenir une forme de deuil pathologique. Parce que la mort, ça reste malgré tout, même si elle n'existe pas, même si la conscience continue d'exister après, la mort reste une séparation. Et cette séparation, cette rupture d'un lien, elle est la chose la plus compliqué à gérer en début de deuil, en début de processus de deuil.
Vous le savez bien, la plupart des gens qui perdent un être cher ont envie de savoir s'il existe toujours, si ça va bien de l'autre côté. Et donc, beaucoup de gens ont envie d'être en contact avec leur mort.
Et alors, c'est pour ça que je poursuis par rapport à la vision psy. J'ai rencontré beaucoup de psys qui ne sont pas du tout opposés à l'idée à ce que leur patient en deuil aille voir un médium, mais en étant clair sur leurs intentions et surtout en étant clair sur le fait qu'ils ne vont pas y revenir souvent comme si c'était un interphone. Il faut accepter cette séparation. Le deuil, c'est la réinvention d'une autre forme de lien qui intègre cette absence physique. En revanche, une consultation de médium ponctuelle, une fois ou une fois dans l'année, peut permettre justement un apaisement colossal chez les gens qui ont perdu, je pense à un enfant par exemple. Parce que tout d'un coup, avec le médium, ils peuvent effectivement avoir la confirmation que leur enfant continue de vivre quelque part et va bien. Mais c'est un dosage. C'est comme les médicaments. Les antibiotiques sont formidables si vous respectez la dose. Si vous en prenez trop, vous allez vous rendre malade, voire même vous mettre en danger. La médiumnité, c'est pareil. Le monde spirituel, pour moi, est une réalité et il demande une relation pleine de discernement et d'équilibre.
Ce qui est intéressant chez vous, Stéphane Alix, c'est que vous n'avez aucune a priori. C'est-à-dire que vous avez mené vos enquêtes dans tous les domaines. Vous n'avez, je dirais, un peu peur de rien, ou vous n'avez aucune pression d'aucune tradition particulière. Vous cherchez, vous enquêtez.
Ben, je suis journaliste.
Vous êtes un enquêteur, en fait.
Je suis un enquêteur et a priori, un journaliste ne doit pas avoir d'a priori. C'est un journaliste, c'est une éponge avec du discernement. C'est censé être ça. Et c'est ce que j'ai appris en Afghanistan à 19 ans, très jeune.
Mais vous vous êtes pas fait rouler dans la farine, trompé par des faux médiums ou par des gens qui...
Oh si, j'ai vu des gens, j'ai rencontré des gens...
Ce sont des quoi.
Mais oui, c'est très simple. Hein. J'ai régulièrement des personnes qui me disent « Oh, je suis médium, j'ai vu votre frère à côté de vous » ou des choses comme ça. Je dis « Ah, c'est super, très bien. Est-ce que vous accepteriez que je vous teste ?» Et quand je les teste, et ben en général, il se passe rien du tout et ça marche pas du tout. Moi, il y a les charlatans qui abusent sciemment de gens en deuil, de la souffrance, et ça c'est extrêmement condamnable. Mais moi, ce qui m'inquiète peut-être encore plus, c'est les gens qui croient être médiums, avec toute la bonne volonté du monde, qui sont convaincus de l'être, mais qui ne le sont pas vraiment, qui ont une forme de sensibilité accrue, mais qui n'entendent pas les morts, qui entendent l'inconscient, leur inconscient, leur propre inconscient. Et ces gens-là sont peut-être plus... pas dangereux, mais ils peuvent induire chez les gens qui viennent les consulter des fausses croyances, des fausses idées. Et c'est pour ça que j'aimerais que cette activité puisse être mieux étudiée. Parce que si on laisse tous ces phénomènes dans le flou et on ne les étudie pas, ça laisse le champ à tout le monde et à n'importe qui de pouvoir raconter ce qu'il a envie de raconter.
C'est pour ça que vous avez fondé l'INRES, j'en parlais tout à l'heure, cet institut de recherche sur les expériences extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de domaines de l'inexpliqué, de l'inexplicable. Hein. Je pense par exemple aux coupeurs de feu, aux barreurs de feu... que des hôpitaux utilisent aujourd'hui. En fait, c'est pour ça que vous avez fondé l'INRES, pour aller explorer l'inexplicable.
J'ai fondé l'INRES au début pour que des gens qui vivent ces expériences extraordinaires puissent trouver un conseil avisé. Le premier but de l'INRES, c'était de rassembler des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, qui s'intéressent à ces phénomènes, qui connaissent les outils cliniques et les approches thérapeutiques pour entendre l'extraordinaire et pour faire en sorte que ces gens, les témoins, puissent avoir un soutien bénévole de la part de ces psys pour lesquels on a constitué un réseau en 2009 aujourd'hui. Ensuite, étant journaliste, j'ai développé aussi toute la partie médiatique de l'INRES en lançant le magazine Inexploré.
C'était sur M6 il y a quelques années. Il y a le magazine La Revue et puis vous avez fait des émissions
une
aussi.
Une émission qui s'appelait Enquête Extraordinaire, effectivement. Parce qu'effectivement, moi je considère, et c'est je pense, le meilleur moyen justement de lutter contre les dérives sectaires, les charlatans et le n'importe quoi, c'est d'expliquer ce qui est avéré, ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Et c'est la vocation de l'INRES depuis 15 ans aujourd'hui de créer des espaces de repères. Je me souviens d'une dame qui m'avait frappé il y a très longtemps de ça. J'étais dans une librairie parisienne importante devant le rayon ésotérique et vie après la mort. Et je cherchais différents livres parce que je lisais tout à ce moment-là pour justement le début de mon enquête. Et je vois une jeune femme regardant le même rayonnage. Et je sais que dans ce rayonnage, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des âneries phénoménales, il y a des charlatans, il y a des mythomanes. Et il y a aussi des choses extrêmement sérieuses, quelques livres de médecins, etc. Et je vois cette femme désemparée et je lui dis « Est-ce que je peux vous aider ?» Et elle me dit « Bah écoutez, oui, je veux bien. » Et on commence à discuter et elle m'explique qu'elle vient de perdre son mari. Elle vient de perdre son mari, elle s'intéresse à cette question-là sans trop savoir quel livre prendre. Et je mesure l'utilité qu'il y aurait à créer des espaces de repères pour que des gens comme ça, qui sont dans une urgence, qui sont dans une plus grande fragilité, puissent trouver les bons livres, les bons soutiens, et puis justement être pas tentés d'aller vers n'importe quel charlatan. Et c'est comme ça qu'on lutte contre les dérives sectaires. C'est en informant avec lucidité sur ces phénomènes. Ces phénomènes ne sont pas tous à jeter à la poubelle. L'extraordinaire et la dimension spirituelle constituent notre réalité. C'est en l'étudiant, en triant les informations autour de ça, qu'on permet de mettre en évidence sa réalité et de s'extraire de toutes les dérives possibles.
Stéphane Alix, c'est ce que faisait il n'y a pas si longtemps encore, les gens, au moment d'un deuil, ils se tournaient vers leur tradition religieuse. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sorte de désenchantement du monde, hein, comme dit Marcel Gaucher, et les gens sont un peu perdus parce qu'ils n'ont plus de repères, plus de tradition religieuse ?
Je pense. Moi, je vois énormément de gens touchés par le deuil, en conférence, en dédicace, j'en rencontre quotidiennement, et je vois le désarroi. Je vois des gens, quelles que soient les croyances spirituelles d'ailleurs, hein, quelle que soit l'adhésion ou le niveau de foi des personnes. parce qu'il est difficile de tomber sur une personne avec qui on va vraiment pouvoir échanger. Quelle que soit son obédience spirituelle, quel que soit notre prêtre, notre rabbin, notre imam, on n'a pas forcément la personne qui va trouver les bons mots, mais j'en dis la même chose pour les psys. Donc c'est difficile de cheminer avec la mort. Et dans notre société, en plus, il y a des sortes d'injonctions qui nous laisseraient entendre que le deuil se fait, et que du coup, il doit se faire en une période donnée. Mmh.
Et très vite, en général.
Et donc, au sein de la famille, on est terrassé de souffrance, donc on a du mal à échanger. Nos collègues et nos amis ne trouvent pas les mots, ne savent pas trop comment faire. On se dit qu'on va gérer ça tout seul parce qu'un psy, bon, à quoi ça sert? Et au-delà de ça, on a effectivement les différents prêtres, imams ou rabbins ou autres, qui parfois ne sont pas forcément adaptés ou vont avoir une réponse peut-être un peu trop... Enfin, dogmatique, le mot est trop fort, mais un peu trop désincarné, peut-être pas assez humaine. C'est difficile de parler de la mort.
Stéphane Alix, dans cette longue enquête, quête que vous avez menée là, depuis la mort de votre frère jusqu'à aujourd'hui, pour mieux comprendre le sens de la mort, voire aussi pour essayer de vous rapprocher de votre frère puis de votre père, vous avez vous-même pratiqué des expériences, et notamment des expériences chamaniques. Alors j'aimerais qu'on en parle. Là aussi, il y a toute une réticence aujourd'hui, et en même temps un engouement, il y a tout ce qu'on appelle un néo-chamanisme qui se développe. Donc expliquez-nous, j'ai quelqu'un de saint devant moi, et qui a vécu, et quand on lit votre livre, des expériences très fortes avec des chamans, en Amazonie, notamment chez les Shipibo, vous avez pratiqué ces rituels chamaniques. Qu'est-ce que vous avez recherché dans ces expériences chamaniques?
Encore une fois, qu'est-ce que
vous y avez trouvé?
Le démarrage de cette voie d'exploration est encore une fois animé de beaucoup de pragmatisme. Après quelques années d'enquête auprès de ces médecins sur toutes ces expériences extraordinaires, j'ai effectivement fait le constat que notre conscience n'était pas réductible à notre activité cérébrale, qu'elle avait des dimensions infinies, une dimension spirituelle. Mais il y avait en moi l'envie de faire l'expérience de ça. Parce que moi, j'ai toujours fait les expériences. Je suis photographe, donc quand je vais sur un terrain de conflit, je vais sur la ligne de front. Je ne peux pas rester à l'hôtel à distance.
Passer la ligne de la mort, finalement? Vous vouliez faire une expérience de mort? Vous n'aviez jamais fait d'expérience de mort imminente?
Non, absolument jamais. Mais
donc là, vous vouliez aller explorer la mort, mais concrètement?
Je ne savais pas, mais disons que quand j'entendais de face à moi un témoin d'expérience de mort imminente me raconter ce qu'il avait vécu, il y avait en moi l'envie de le vivre aussi, sans que j'ai la moindre idée de savoir comment je pouvais le faire.
Avec une pratique chamanique?
Et en 2006, un de mes amis m'a parlé du chamanisme amazonien et de chamans qui, en utilisant des techniques particulières et des substances, induisent des états modifiés de conscience et vont dans le monde des esprits, vont dans le monde des morts. Moi, je me dis, j'y vais, je vais essayer. Je suis assez grand pour me faire ma propre idée.
Avec cette fameuse plante qu'on appelle l'ayahuasca.
L'ayahuasca, c'est ça.
Qui est considérée, je le précise, comme une drogue en France et par contre comme une plante spirituelle chez beaucoup de peuples d'Amérique du Sud.
Exactement. L'ayahuasca contient de la DMT, qui est une substance psychédélique interdite à la consommation en France, mais qui, comme vous l'avez souligné, est considérée comme faisant partie du patrimoine national du Pérou, par exemple, où elle est utilisée. Donc, moi, je suis parti sans a priori. Je suis parti chez des chamans. En même temps, je me suis documenté sur le chamanisme. J'ai lu des récits d'anthropologues, les recherches qui sont faites en neurosciences sur le sujet, en médecine. Et je me suis dit, je vais aller faire moi-même l'expérience pour voir si c'est juste des croyances, si c'est juste métaphorique, si c'est juste des gentils sauvages qui s'amusent de façon bizarre, ou s'il y a quelque chose d'autre. Et à ma grande surprise, en commençant mes premières expériences, je me suis aperçu que c'était... que j'entrais dans une autre voie d'exploration du réel. Les chamans sont des gens qui ont développé des techniques d'interaction avec leur environnement, basées sur une relation avec les esprits qui animent cet environnement, pour survivre, pour se soigner, pour être adaptés dans leur monde, notamment dans la forêt, pour ce qui concerne les chamans amazoniens. Les informations qu'ils rapportent de ce contact avec le monde des esprits sont vérifiables et avérées. Quand, par exemple, un chaman reçoit un malade et qu'il prend de l'ayahuasca pour entrer en transe et voir à travers le corps du malade, parler avec son esprit, et qu'il revient de cette transe en disant « bah vous avez ça et il faut ça pour vous soigner » et que ça marche et que c'est systématique, est-ce que c'est du délire? Est-ce que c'est une crise d'épilepsie? Comment se fait-il que les informations puissent être si efficaces et si précises dans cet état de transe? Donc je me suis formé au chamanisme, c'est pas quelque chose que vous faites en un week-end.
C'est ça, vous avez pris du temps, ça a été sur plusieurs années.
Ça a été sur 15 ans. Mmh. Mais en même temps, si vous voulez apprendre le chinois et le parler couramment, vous n'allez pas prétendre pouvoir faire ça en un week-end. Et le chamanisme, c'est pareil, c'est une technique de mise en relation avec une autre dimension de notre réalité.
Alors il nous faudrait une heure rien que pour ces expériences-là, même plus, hein, bien plus. Si vous deviez nous partager le cœur, l'essentiel de ce que vous avez appris au cours de ces expériences chamaniques.
L'essentiel, c'est que j'ai rencontré les limitations de mon inconscient.
Limitations de mon inconscient.
Je suis mort. Mon inconscient est mort. Mon conscient est mort, ma personnalité est mort à plusieurs reprises, Stéphane Alix est mort à plusieurs reprises, et de l'autre côté de la mort, il n'y avait pas rien du tout, il n'y avait plus Stéphane, il n'y avait plus mon inconscient et mon conscient, mais il y avait mon âme. Voilà, c'est comment je pourrais résumer.
Votre être profond, mon s'il être faut profond. Mettre des mots.
Et la grande difficulté, en fait, c'est que ces expériences, on le sait en neurosciences, parce qu'on a étudié les substances en neurosciences, on sait que ces substances n'ont pas du tout un rôle de création d'hallucinations dans le cerveau. Au contraire, elles éteignent le cerveau. Elles éteignent le cerveau et du coup, elles libèrent le filtrage. Elles vous donnent à voir une plus grande partie de la réalité, mais elles vous donnent aussi à voir une plus grande partie de votre inconscient. C'est notamment pour ça que les substances psychédéliques aujourd'hui sont beaucoup étudiées en psychiatrie et elles font l'objet de recherches et elles sont légalisées dans plusieurs endroits sur Terre parce qu'elles ont un potentiel thérapeutique incroyable. Elles ouvrent votre inconscient externe et votre inconscient interne. Donc, c'est pour ça que l'apprentissage est long, parce qu'au fur et à mesure que vous faites ces expériences-là, vous avez des visions, vous avez un monde invisible qui commence à apparaître, mais vous avez aussi le monde invisible de votre inconscient qui apparaît.
Et si je vous entends bien, le cerveau, finalement, est un filtre qui nous handicape pour vraiment découvrir qui nous sommes profondément. En fait, c'est ce qu'on pratique en méditation.
Exactement.
Quand on se rend compte que ça pense, que les pensées s'agitent, et oui, on essaye de calmer cette agitation mentale. C'est un peu ce que vous venez de me décrire, non?
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, vous parlez de la méditation. Les recherches qui ont été faites en neurosciences montrent que l'action des substances psychédéliques sur le cerveau sont exactement similaires à celles de la méditation. Sauf que le psychédélique va agir pendant 4 à 5 heures de façon extrêmement brutale, violente. Et après, le cerveau revient à son état de fonctionnement normal. Alors que la méditation fait ça beaucoup plus en douceur. Pour autant que vous pratiquiez quotidiennement, au bout de simplement quelques semaines, on voit déjà les circuits cérébraux changer. Et on voit une moins grande prééminence de ces réseaux de rumination et d'anticipation qui sont ceux qui fonctionnent en permanence dans notre cerveau.
Ça veut dire que la méditation vraiment poussée à un haut niveau peut nous amener, je dirais à peu près, aux mêmes situations, réalités que celles que vous avez pu vivre avec le chamanisme ?
Oui. La pratique de la méditation, quand elle est assidue, ce qui compte, c'est la régularité. C'est pas forcément la longueur, c'est la régularité. Parce que la méditation transforme notre cerveau jour après jour. Et oui, la méditation, c'est pas une technique anti-stress comme on l'a fait en Occident. C'est pas un truc pour aller mieux. C'est pas une méthode de bien-être. C'est la porte d'entrée vers notre dimension spirituelle et vers notre âme.
Et cette âme est en communion avec une réalité suprême qu'on appelle Dieu dans différentes traditions religieuses.
Oui.
Ou qu'on nomme pas dans le bouddhisme et qui correspond à...
Ah, c'est dans le bouddhisme, on parle de l'espace divin. Les bouddhistes tels qu'ils présentent leur doctrine aujourd'hui sont parfois un peu embrouillés par rapport à l'essence de l'enseignement du bouddhisme. La notion d'âme, elle est présente dans le bouddhisme à l'origine. Alors pas comme une individualité immanente et permanente, mais elle existe. Oui,
pour revenir à ma question autrement, on va laisser le bouddhisme à part. Est-ce que cette découverte de qui nous sommes profondément nous ouvre vers une rencontre avec une divinité plus grande que nous.
Oui, oui, incontestablement. Le divin, moi j'aime beaucoup cette phrase d'un ami Quaker américain qui m'avait dit « Nous cherchons le that of God dans chaque être humain, la parcelle de Dieu dans chaque être humain ». Moi, je ressens profondément que Dieu est en chacun de nous, en chaque atome de cette réalité qui nous entoure. Et que notre âme, c'est un fragment de Dieu, c'est un éclat, c'est un reflet de Dieu en chacun de nous. Et cette âme, cette partie divine, elle est rencontrable. Je la rencontre à certains moments de ma méditation, je médite tous les jours. Et il arrive que certaines fois, mon cerveau il est en roue libre et je pense tout le temps. Mais à d'autres moments, j'ai des petits fragments où je m'échappe. Et Dieu est là, cette divinité qui est la réalité ultime. Pour moi, ce monde est un monde voilé, confus, mais dont l'essence est divine.
Et ça, c'est le fruit d'une expérience. C'est l'acte de foi d'un homme qui a vécu cette expérience d'unité.
C'est un long cheminement. C'est vraiment ce que je détaille dans ce livre qui reprend 15 années de vie. C'est un permanent enchevêtrement de mon chemin de journaliste, d'enquêteur, rationnel, cartésien et mes expériences psychospirituelles. C'est pas l'un ou l'autre de ces chemins. C'est les deux ensemble qui m'ont permis d'à la fois me convaincre rationnellement que l'hypothèse de l'existence de l'âme était la plus solide aujourd'hui pour rendre compte de toutes ces expériences. Et c'est la rencontre avec mon âme que j'ai pu vivre en Amazonie et ailleurs qui m'a donné à vivre ça, qui m'a permis d'en faire l'expérience moi-même. Et aujourd'hui, je suis intellectuellement et amoureusement convaincu de cette réalité spirituelle.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, que vous n'avez plus peur de la mort, Stéphane Alix ?
Alors aujourd'hui, j'ai 55 ans, donc la mort, a priori, elle n'est pas pour demain ni après-demain. Donc, je vous dirais que non, j'ai plus du tout peur de la mort. J'espère que je serai dans ce même état d'esprit quand je serai à 5 minutes de passer de l'autre côté. Mais j'ai le sentiment, oui, je pense que j'ai déjà traversé cette expérience plusieurs fois, la mort de mon ego, la dissolution de l'ego qui est objectivée par les études en neurosciences sur les psychédéliques. Je l'ai vécu de nombreuses fois. Donc au début, c'était extrêmement compliqué, difficile à traverser.
Mais on revient toujours.
Oui, mais quand on
vous
le
avez
vit,
un ego, Stéphane Alix.
Quand
aussi,
on le vit, on ne le sait pas qu'on revient. Quand on vit, on ne le sait pas. L'expérience chamanique n'est pas une expérience intellectuelle, c'est une expérience immersive. Donc quand vous commencez à sentir que votre ego se dissout, mais on l'observe vraiment en neurosciences, vous savez, les études qui ont été faites, notamment à Londres, sur l'action des psychédéliques sur le cerveau, montrent qu'au pic de l'expérience, notre réseau qui s'appelle le réseau mode par défaut, qui est le réseau qui sous-tend notre ego et notre sentiment d'identité, cesse de fonctionner. Il est en baisse d'activité, il y a une baisse de la connectivité neuronale. Donc objectivement, les neurosciences démontrent que l'action du psychédélique stoppe l'activité de notre ego et l'existence de notre ego. Alors c'est temporaire, c'est réversible, mais quand ça commence, je peux vous assurer que vous ne savez pas que c'est réversible, parce que vous partez vraiment dans cette dissolution. Et je l'ai traversé aujourd'hui et j'ai vu combien ça donne accès à une dimension divine d'amour et d'harmonie qui est indescriptible.
Visage, l'expression de l'être.
Alors comment expliquer, Stéphane Alix, que vous avez traversé ces expériences-là, vous en êtes revenu, transformé, et que d'autres vivent des expériences comme celle-ci et en deviennent fous, sont très mal, vivent de très mauvaises expériences?
Parce que l'expérience chamanique déconstruit votre ego. Alors c'est réversible, mais ça le déconstruit quand même. Donc si votre ego est fragile, si vous n'êtes pas stabilisé, si vous n'êtes pas dans une forme de maturité, si vous le faites hors du cadre, soit thérapeutique, soit chamanique, vous n'avez pas de repères, vous n'avez pas d'aide et pas d'accompagnant, et c'est compliqué de revenir. C'est compliqué de revenir après avoir déconstruit quelque chose, de retrouver tous les paramètres de ce quelque chose. Dans les années 50-60, où les psychédéliques étaient énormément étudiés et expérimentés par des chercheurs, des enseignants et des étudiants, etc., un des chercheurs les plus importants sur ce sujet, qui s'appelle Richard Alpert, disait et préconisait de ne pas donner de psychédéliques aux adolescents notamment, parce que c'est le moment où précisément notre construction psychique se fait de façon la plus importante, où notre ego se structure, et déconstruire l'ego au moment où il se structure, ça peut avoir des conséquences très déstabilisantes. Donc ça conduit pas à la mort, ça conduit pas nécessairement à la folie, mais ça conduit à une grande fragilité psychique. Cette fragilité psychique, mais encore une fois, c'est comme un bistouri un bistouri est un objet dangereux. Vous pouvez tuer quelqu'un avec un bistouri, mais vous pouvez aussi l'opérer du cœur et le sauver la vie. Les psychédéliques, c'est exactement la même chose. C'est dangereux dans le sens où ça met à jour tout votre inconscient avec ce que vous avez passé votre vie entière à cacher. Donc ça peut être déstabilisant, dangereux psychiquement, mais c'est aussi, et c'est pour ça que les psychédéliques sont utilisés aujourd'hui en thérapie assistée, c'est aussi un outil profond pour aller lever les traumatismes enfouis et les guérir. Mais il faut être encadré pour ça.
C'est pour ça, Stéphane, que vous insistez toujours, que ce soit pour les expériences chamaniques ou autres, être accompagné, accompagné jamais.
Oui, c'est
ce genre d'expérience.
Ces substances, d'une part, sont interdites, donc je n'en préconise absolument pas l'usage ici, mais elles ne sont pas magiques pour autant. Elles doivent effectivement être utilisées dans un cadre thérapeutique là où c'est légal, mais en Suisse, juste à côté de chez nous, c'est légal. Les psychiatres, aujourd'hui, peuvent travailler avec des substances psychédéliques pour accompagner des gens dans la dépression, dans l'addiction, dans l'alcoolisme, par exemple.
Pour lutter, ouais, contre l'addiction et l'alcoolisme.
Le psychiatre est aux commandes.
Ce que j'ai découvert dans votre livre, Stéphane Alix, c'est la première fois pour moi, vous faites un parallèle avec les mystères grecs et les mystères d'Eleusis. J'ai trouvé ça très intéressant. Vous nous dites que finalement, les fameux mystères qu'ont vécu les Grecs pendant 6-7 siècles, c'était des initiations à partir de drogue que prenaient les personnes qui étaient initiées.
Alors ce dont on est sûr, c'est que c'est une initiation de nature chamanique. Après, l'emploi d'une substance est une hypothèse qui est défendue par certains chercheurs, parce que le kikion notamment, qui est ce breuvage qui doit être consommé par les futurs initiés dans le cadre de ces initiations, était vraiment au cœur de la liturgie. Donc on se dit, ce breuvage doit avoir une importance. Et ce qui est curieux, c'est qu'il contient notamment du seigle, et que on sait par les études qu'un parasite du seigle et des différentes céréales a été à l'origine de la découverte du LSD. Donc il est probable que le kikion, qui utilisait le seigle, était une sorte d'alcaloïde induisant des états de conscience modifiés comme le LSD.
Par la mort pour une résurrection, une forme de résurrection.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand on retrouve les textes de tous nos philosophes, que ce soit Aristote, Épicure, Apulée, Platon, Socrate, et quand on voit comment ils décrivent l'expérience d'Eleusis, l'expérience des mystères. Il y avait 5 sites pour expérimenter ces mystères dans la Grèce antique. Ils décrivent une expérience qui est phénoménologiquement en tout point similaire à l'expérience chamanique.
Je renvoie à votre livre pour ça. Pour terminer, Stéphane Alix, une question que je pose de temps en temps à mes invités à la fin de cet échange, c'est à la lumière de tout ce que vous avez vécu, et vous avez vécu beaucoup, beaucoup de choses, quel est le sens de cette vie? Pourquoi sommes-nous là?
Ça, c'est une grande question. Le sens que moi, j'ai trouvé, c'est pas tellement un sens ultime, c'est plus la compréhension que ce que je fais aujourd'hui, je le fais à moi-même, parce que moi-même, c'est le monde entier. Moi-même, si j'ai un fragment de Dieu en moi, ce que je fais à moi et ce que je fais aux autres, je le fais à moi-même toujours. Donc, toutes ces recherches m'ont montré que l'apparente injustice des circonstances de la vie n'est qu'apparente, qu'il y a un sens derrière, un sens peut-être d'apprentissage, peut-être de croissance spirituelle, de plus grande harmonie. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous partage.
Tout a un sens.
Oui, je pense que tout a un sens. Un sens qui n'est pas forcément perceptible par nous et par notre compréhension humaine.
Et pas facile à comprendre quand on est dans la souffrance.
Exactement, exactement. Mais je suis souvent curieux, étonné de dire ça moi-même, parce que j'ai l'expérience de ce monde et de la brutalité de ce monde. J'ai fait plus de 10 ans de reportages de guerre, donc sur des conflits, sur des zones terribles. J'ai vu la colère, la violence de ce monde. Et pourtant, je suis habité de la certitude aujourd'hui que ce monde est beau, que ce monde est un espace d'harmonie, d'épanouissement, et que ce n'est que notre confusion qui colore cette planète de tellement d'injustices et tellement de folies.
Merci beaucoup, Stéphane Alix. Je renvoie vraiment à votre livre « La mort n'existe pas » que vous venez de publier aux éditions HarperCollins. Et là, c'est le fruit de tant d'années d'enquête sur ce mystère de la mort, mais aussi ce mystère de la vie.
On peut être levé un petit peu. Merci beaucoup.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.